Berlin.
It's Morning Edition from NPR News.
That's it, he's on Peter House.
Hi, I'm Radio Rosana Pipari.
Borussia Ghetto and Radio.
France Inter, le 18-20.
Il est difficile à suivre, décidément, ce président américain et sa politique contre la Turquie et les Kurdes. Mais depuis hier, le mal est fait. Alors, est-ce qu'une intervention turque reste inéluctable? Pour quelles conséquences? Et nous, la France et l'Europe, quelle place dans cette équation? On y vient tout de suite. Le bruit du monde est en Inde, où la tuberculose fait plus de ravages encore que le sida, figurez-vous. Et Amélie Perrier nous emmène, elle, en Nouvelle-Zélande, sur les traces du capitaine Cook, qui n'est pas forcément le bienvenu. 18h50, c'est pas son genre, à Julia Foyce, de faire les choses à moitié. Elle nous emmène dans un hôtel uniquement féminin. Et puis 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, justement, Trump et ses positions erratiques. Et si les Républicains le lâchaient? On y met beaucoup de points d'interrogation. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonjour Amat Insel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, politologue. Vous avez écrit en 2017 La Nouvelle Turquie d'Erdogan. C'était publié chez La Découverte. On le disait donc, hier matin, Trump annonce le retrait de ses troupes. Et puis quelques heures plus tard, il recule. Il dit non, mais on n'enlève que 50 ou 100 hommes, pas plus. On sent bien qu'il s'est fait taper sur les doigts de part et d'autre. Est-ce que vous croyez réellement à un revirement où, de toute façon, le mouvement de retrait a commencé? Et désormais, quoi qu'ils disent, plus rien n'empêche les Turcs d'avancer?
De toute façon, depuis quelques mois, il y a négociation entre la Turquie et les États-Unis, et pas simplement avec Trump et Tayyip Erdogan, mais principalement entre Trump et Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, mais aussi avec les états-majors des deux pays, sur une possibilité d'ouverture d'une poche dans la fameuse zone tampon, où les approches sont un peu différentes. Alors, il y a un accord à peu près établi actuellement entre la Turquie et les États-Unis, comme quoi un corridor de sécurité pourrait être mis en place au long de la frontière turco-syrien, contrôlée actuellement, une partie est contrôlée actuellement par les forces kurdes. Mais essentiellement, depuis mi-août et mi-septembre, ça a été confirmé, entre deux villes syriennes frontalières, c'est-à-dire Tel Abyad et Ras El Ain, il y aurait, c'est à peu près 100 kilomètres, hein, les deux, il y aurait cette possibilité d'une mise en place, on ne sait pas très très bien, soit une présence de l'armée turque, soit le retrait des forces kurdes, ce qui a déjà commencé depuis un mois, et on ne sait pas la profondeur. Et donc, la surprise de Donald Trump dimanche soir, c'est d'annoncer d'une manière un peu spectaculaire, donnant l'impression d'un retrait total des forces américaines. Ils sont à peu près 1000. Et là, il y a un emballement de situation. Mais la Turquie fait pression, Tayyip Erdogan fait pression pour cette zone de sécurité et pour allécher les puissances occidentales. Il essaye de dire que justement dans cette zone de sécurité, mais que lui, il voit à peu près 30 kilomètres de profondeur, on va installer des réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie. Ça, c'est un peu, je dirais, la carotte pour faire passer la pilule.
Et mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Parce que effectivement, dans l'idée des Turcs, on crée cette zone tampon, les Syriens peuvent y retourner, donc ça évacue un peu le problème des réfugiés qui est en Turquie, et finalement tout le monde est content. Ça, c'est comme ça que les Turcs nous présentent les choses, effectivement, en couple ou pas avec les Américains. Dans la réalité, s'il y avait intervention turque, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Kurdes ripostent? Est-ce qu'ils sont obligés de partir? Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, c'est très difficile à prévoir. D'abord, il y a eu une première expérience à Afrin, où les forces turques sont intervenues, les forces kurdes annonçaient qu'ils allaient résister massivement, mais finalement ils n'ont pas fait, ils sont partis en laissant même un peu les armes sur place. Mais je crois qu'à l'époque ils avaient fait un calcul en disant on laisse Afrin, mais en contrepartie, et je crois que c'était un deal avec les Américains, un accord avec les Américains, on va sécuriser notre situation à l'est de l'Euphrate. Maintenant, le problème, c'est que il n'y a pas de négociation pour laisser aux Kurdes de la région autre acquis. Donc du coup, les Kurdes sont un peu le dos dans le mur, le dos au mur, si vous voulez.
Est-ce
Donc du coup, il peut y avoir une résistance kurde contrairement à ce qui s'est passé à Afrin.
Au fond, quand on y songe, est-ce qu'ils ont fait une erreur, les Kurdes, à la base, en faisant une sorte d'accord avec les Américains, sachant que c'est pas l'allié naturel, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce qu'au fond, la première erreur, elle est pas là aussi, l'erreur originelle?
Beaucoup d'observateurs ont prévenu les forces kurdes là-dessus. Il y a très longtemps. Mais je crois que en même temps, ils ont l'allié, le seul allié qui était là, c'était les Américains. C'est-à-dire que face aux forces de Damas, face aux forces turques, les alliés de Damas sont les Iraniens et les Russes. Donc du coup, c'est très difficile d'être à la fois contre Damas et être allié des Russes et des Iraniens. La Turquie considère cette autonomie kurde comme
Une menace.
Plus qu'une menace, comme une déclaration de guerre, raison d'une déclaration de guerre. Et je crois qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Peut-être ils ont un peu après été emballés par cette aventure, ils l'ont vécu déjà en Irak, les Kurdes, par rapport à leur allié américain.
Et dans cet emballement, puisqu'on est dans l'emballement dont vous parlez, est-ce qu'ils n'ont pas, j'allais dire les pauvres, eu trop confiance en eux? On les a beaucoup encensés, ces Kurdes-là, parce qu'ils ont sauvé effectivement une bonne partie de cette région-là, parce que faire fuir l'État islamique, c'était eux. Est-ce qu'ils ont cru, au fond, dans leur très grande naïveté, qu'en retour, on allait leur donner quelque chose?
Probablement, il y a eu cet emballement a créé un enthousiasme, notamment pour une partie des Kurdes mobilisés, très politisés. C'était le fameux slogan « la révolution de Rojava ». Rojava, cette partie du nord de Syrie, les Kurdes l'appellent le Rojava, la révolution de Rojava. Et qu'ils pensaient qu'effectivement, ils allaient gagner une reconnaissance, une autonomie, un soutien occidental et américain plus fort. Mais je crois que ça aussi, c'est un peu lié au climat de la région, parce que il est vrai qu'à un moment donné, il y avait un tel vide de pouvoir que je crois Damas, que le régime de Bachar Assad a organisé exprès un vide de pouvoir. Et vous savez que quand il y a un vide de pouvoir, les pouvoirs locaux s'installent massivement et depuis quelques années.
Mais finissez.
Et donc probablement Damas a aussi laissé faire cette possibilité d'installation des Kurdes qui leur paraissait une manière de vis-à-vis des Turcs d'utiliser toujours cette menace, si vous voulez.
Sachant que les Kurdes disent aujourd'hui ce qu'ils avaient dit lorsque les premières menaces, craintes d'une intervention turque était parvenu déjà depuis plusieurs mois. Ils avaient dit, on se tournera vers Damas. Or, vous m'arrêterez si je me trompe, il y avait eu des contacts avec Damas, mais qui n'ont pas abouti ou qui ont abouti finalement.
Les contacts n'ont jamais été rompus. Par exemple, pour donner pour le Qamishlo, la grosse ville kurde au nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie, la présence du régime de Bachar Assad est très concrète, puisque les fonctionnaires locaux sont toujours payés par Damas là-bas, alors que c'est la plus grosse ville kurde. Je crois qu'il y a eu des contacts. Les Kurdes n'ont pas tellement, dès le départ, voulu combattre le régime de Damas parce que, d'abord, ils se méfiaient des
Turcs, vous voulez dire, de l'autre côté?
Non, mais surtout des révolutionnaires.
D'accord, des révolutionnaires syriens.
Des révolutionnaires syriens. Et en même temps, il disait, notre problème, c'est de défendre la paix dans notre région. Nous ne voulons pas se battre au-delà. Et je crois que Damas aussi a laissé faire comme ça. Les Kurdes ne sont pas entrés d'emblée dans le front anti-Assad, ce qui permettait de diviser. Et deuxième chose, c'est que les Kurdes se sont surtout devenus au premier rang international quand les djihadistes ont essayé d'occuper les régions kurdes, Kobané essentiellement. Et donc là, les Kurdes, vraiment, là, ils ont défendu leur avec l'aide au occidentaux, évidemment, avec l'aide américaine, mais ils ont défendu, ils ont perdu des milliers de combattants, et ils ont été la force la plus vive, la plus efficace pour combattre le Daesh. Il faut reconnaître ça, parce que les autres opposants anti-Damas ne sont pas autant efficaces, n'ont jamais été autant efficaces pour combattre le Daesh.
Les djihadistes dont vous parlez, dont on dit qu'il y en a plusieurs centaines, effectivement, dans cette zone-là, est-ce que c'est un argument pour qui, au fond?
Est-ce
que
tout le monde.
Eh ben voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un argument pour les Kurdes qui peuvent dire attention, parce tout que si fait. On les laisse en liberté à vos risques et périls, est-ce que c'est un argument pour les Turcs qui eux disent non mais ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, braves gens, on saura aussi gérer ça. Au fond, alors nous on est au milieu, hein, en sandwich, nous les Européens, les Français, il y en a aussi des djihadistes français, mais au fond c'est un argument pour qui ça? Ça pèse pour qui cette affaire?
D'abord, c'est un argument qui devient crédible, un argument utilisable parce que la France, l'Allemagne, la Hollande sont très frileuses. Mm-hmm. Là, il faut reconnaître, sont très très frileux sur cette question, ne veulent pas leurs djihadistes, hein, les ressortissants de leur pays, ni les enfants et les femmes qui sont dans ces camps. Donc je crois que d'abord, il faut voir que cette fragilité de la question provient de la frilosité des pays européens. Deuxièmement, c'est la Turquie. Semble-t-il que Tayyip Erdogan a proposé dans sa négociation dimanche avec Trump en disant « mais ne vous inquiétez pas, on s'occupera de nos djihadistes ». Je ne pense pas que Tayyip Erdogan ait en tête de s'occuper de ces djihadistes parce que aujourd'hui, Tayyip Erdogan considère que s'il a perdu les élections municipales des grandes villes, c'est aussi parce que une partie très importante de son électorat devient anti-syrien, anti-réfugié syrien. Et donc, du coup, l'idée que les djihadistes... Ces djihadistes qui sont internés viendront en Turquie. Dans ce cas-là, ils perdent totalement le contrôle de son parti. Donc, du coup, là, c'est un bluff. Mais peut-être ils pensent, je pense, peut-être ils pensent utiliser ces djihadistes qui seront maintenus peut-être dans son esprit dans une région en Syrie pour renégocier, comme il fait pour les émigrés potentiels, renégocier un marchandage un peu sinistre avec les puissances européennes.
Et c'est ça qu'il y a probablement au fond, vous le disiez, effectivement, il y a les djihadistes, il y a les réfugiés, tout ça est un vaste ensemble. Est-ce que c'est, vous l'avez évoqué, est-ce que c'est parce qu'il est en posture plus difficile politiquement, Erdogan, qu'il l'accélère? Parce que, encore une fois, des menaces, il y en a eu plus d'une, et à chaque fois, finalement, Erdogan a reculé et il n'y est pas allé. Pas que à cause des Américains aussi.
Les Russes non plus ne laissaient pas, mais aussi parce que l'armée turque ne veut pas tellement intervenir, et le coût d'une intervention, nous ne savons pas ce qui peut se passer. Donc du coup, mais par contre, vous avez raison, aujourd'hui, Tayyip Erdogan montre une précipitation dans l'intervention, et il veut coûte que coûte faire une intervention probablement, peut-être symbolique, peut-être, il finira par une intervention symbolique, parce qu'à l'intérieur, il y a une usure très importante de sa base électorale, et il veut mobiliser autour de lui dans une ferveur nationaliste.
Ce qui a fonctionné pour lui autrefois, qui fonctionne moins aujourd'hui.
D'ailleurs, il a voulu utiliser ça, et les Américains les ont empêchés. Il a voulu utiliser ce qu'il vient de faire maintenant. Il a voulu faire en février dernier, un mois avant les élections municipales. Et ça a été fait, ça a été un flop.
Et Matine Selle, quand on a entendu tiens ce matin sur France Inter, Bernard-Henri Lévy dire il faut que le Conseil de sécurité dise quelque chose, il faut que la France agisse, il y a des tribunes ici et là. Très honnêtement, on en a parlé, coincé entre les djihadistes et coincé entre les réfugiés, est-ce que nous, la France, l'Europe au sens large, avons une chance d'être réellement entendus? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre de ce côté-là ou pas?
La marge de manœuvre, c'est que à partir du moment où la carte réfugié et djihadiste ne fait plus peur ici, évidemment, dans ce cas-là, il perd ses cartes du côté Tayyip Erdogan. Mais dans ce cas-là, c'est aux Européens de savoir. Il y a une exportation de djihadistes vers la Syrie. Est-ce que ça arrange la France, l'Allemagne que leurs djihadistes restent internés et qu'ils ne s'en occupent pas, ou est-ce qu'il faut qu'ils ne se voilent pas la face et qu'ils résolvent ce problème dans leur pays, ici même, et non pas par puissance interposée.
Est-ce que ça dirait quand même quelque chose aux Kurdes s'il y avait une proposition de résolution aux Nations Unies, au moins le sentiment qu'on a bien compris qu'ils étaient en train de se prendre un coup de couteau dans le dos ou pas?
Alors, la résolution aux Nations Unies, ça peut être... Oui, mais vous savez, la résolution des Nations Unies au Conseil de sécurité, c'est tellement entre les
bloqué par les Russes et les Chinois, bien sûr.
Donc, je ne pense pas que ça peut avancer. Et actuellement, les Russes aussi, j'ai l'impression, nous avons l'impression, que les Russes aussi laissent un peu faire cette possible intervention turque, parce que dans ce cas-là, ils pensent que ils s'attendent, et les Iraniens aussi, que les Kurdes se précipitent dans les bras de Damas. Donc, du coup, pour les Russes aussi, cette démonstration de force est peut-être une petite intervention mineure de la Turquie dans la région n'est pas mal vue. Donc du coup, je crois que les Kurdes sont vraiment seuls.
Et est-ce qu'ils attendent quelque chose de nous malgré tout, au moins un signe, ou est-ce qu'ils savent
ils
très bien que ceci ne viendra pas?
Je ne pourrais pas parler à leur nom, mais je pense qu'ils s'attendent à des interventions, à des soutiens, etc. Mais je crois qu'il faut être réaliste. Pour le moment, leur stratégie, c'est, si la Turquie intervient, c'est de combattre massivement. C'est une option. Et l'autre option politique, je crois qu'ils réfléchissent de plus en plus, c'est de se tourner vers Damas.
Et ce sera donc à suivre avec vous, avec grand plaisir, Ahmet İnsel. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
La suite du 18-20, ça se passe en Inde, où l'on tente de sauver les gens de la tuberculose, maladie pas du tout éradiquée dans cette partie du monde. Le bruit du monde, la suite, ce sont les Maoris, Amélie Perrier, qui ne veulent pas célébrer le capitaine Cook.
Oui, 250 ans que le capitaine James Cook est arrivé en Nouvelle-Zélande, c'est un anniversaire qui ne fait pas du tout aux Maoris.
Dans son genre, dans le monde, et Julia Foyle, vous voulez qu'on passe nos vacances dans un hôtel un peu particulier, Julia?
Oui, un hôtel non mixte, avec ce qu'il faut de tiroirs à bijoux et de petites touches roses sur les murs pour nous, les fans, bien évidemment.
Voilà, ben Jean-Marc, donc vous ne viendrez pas, mais vous restez quand même pour le monde à l'envers, on parlait de l'erratique Donald Trump à l'instant, et vous avez envie de vous demander, et si les Républicains le lâchaient alors?
C'était totalement farfelu, ce n'est plus que improbable.
Allez, ne bougez pas, le tour de la planète n'est pas fini, il fait une pause, tiens, avec Alani, papa, sur France Inter. Thank you. Le bruit du monde nous emmène en Inde ce soir où l'on cherche à prémunir la population contre la tuberculose. La tuberculose chez nous est considérée comme un mal d'un autre temps. Mais saviez-vous que cette maladie touche 10 millions de personnes par an? Plus d'un million cinq meurent de tuberculose. Depuis trois ans, la tuberculose est devenue la maladie infectieuse la plus meurtrière du monde et devant le sida. Figurez-vous, l'Inde à elle seule compte un quart des cas de cette maladie dans le monde, en particulier une forme de la maladie d'ailleurs qui résiste aux antibiotiques. Les autorités se sont donc lancées dans une course infernale et les associations se battent pour aider les plus pauvres à se soigner. C'est Sébastien Farsi qui nous raconte cette histoire.
Nous sommes dans le bidonville de Narela, en banlieue nord de New Delhi. Ici, les enfants s'agitent dans des rues encombrées alors que les parents sont assis devant leur petite maison. Souraj travaille pour l'Union contre la tuberculose, une association internationale. Et son rôle est d'aller informer cette population pauvre de cette maladie très contagieuse. En Inde, 2 150 000 personnes ont été traitées pour la tuberculose l'année dernière, mais le ministère de la Santé estime que plus de 500 000 cas supplémentaires n'ont jamais été détectés.
Nous allons voir les habitants pour leur demander si un proche tousse depuis deux semaines, s'il a des douleurs au thorax ou s'il a perdu beaucoup de poids. Si c'est le cas, nous récoltons la salive de la personne pour l'analyser au centre municipal de Narela.
Cette tournée de détection a certainement sauvé la vie de Bharti Kapar. Cette jeune femme de 24 ans a commencé à tousser il y a 18 mois. Mais il a fallu longtemps avant qu'on lui offre le bon diagnostic. Bharti nous reçoit dans sa maison familiale composée d'une seule petite pièce de 8 mètres carrés.
J'ai vu 4 docteurs privés différents qui disaient tous que j'avais la typhoïde. J'ai été hospitalisée 3 fois. Mais au bout d'un an, je n'allais toujours pas mieux. Je ne pouvais quasiment plus bouger. C'est alors qu'on a entendu parler de la tuberculose. J'ai suivi un traitement de 6 mois. Et maintenant, je vais mieux. Mais je reste faible. Je ne peux pas lever d'objets lourds et je m'essouffle rapidement.
Le traitement de la tuberculose dans les hôpitaux publics est gratuit en Inde, mais ces structures sont souvent bondées et peu hygiéniques. Donc la majorité des Indiens vont d'abord voir des médecins privés, ce qui ralentit la détection de la maladie. Or, la situation est grave. L'Inde compte un quart des cas de tuberculose estimés dans le monde et plus de 400 000 Indiens en meurent chaque année. En 2017, le gouvernement décide donc d'accroître ses efforts. Il double le budget de la lutte contre la tuberculose avec comme objectif d'éradiquer cette maladie d'ici à 2025 en insistant sur la prévention. Kuldeep Singh Sachdeva est le directeur adjoint du programme national contre la tuberculose.
La malnutrition est l'une des causes principales de l'infection. Donc le gouvernement indien offre maintenant une aide alimentaire de 500 roupies par mois à chaque patient. Nous offrons également un traitement préventif aux malades du sida, qui sont très vulnérables, et aux enfants de moins de 5 ans, dont un proche a la tuberculose.
Cette nouvelle politique n'a pas encore permis de réduire le nombre de malades, mais a contribué à mieux les identifier. Le défi est maintenant de les soigner correctement, car le traitement de la tuberculose est long et compliqué. Le patient doit prendre au minimum 4 médicaments par jour pendant au moins 6 mois. Or, beaucoup abandonnent en cours de route, soit parce que les doses prescrites sont trop fortes, soit car leur corps ne supporte pas le traitement. Le patient n'est ainsi pas guéri et développe une résistance à ses antibiotiques. Cela devient alors encore plus difficile de combattre cette maladie, comme en témoigne Nandita Venkatesan, journaliste originaire de la classe moyenne de Bombay.
J'ai survécu à 2 tuberculoses aux intestins. Pour guérir, j'ai dû subir 6 opérations chirurgicales. J'ai aussi perdu une partie de mon audition à cause des injections de kanamycine. C'est un vieux médicament très nocif qui entraîne beaucoup d'effets secondaires. Si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à un appareil auditif.
Selon l'OMS, moins de la moitié des patients multirésistants aux antibiotiques peuvent être guéris en Inde. Mais cela pourrait bientôt changer, car pour la première fois depuis 50 ans, deux nouveaux médicaments ont été inventés pour traiter ces cas extrêmes, le bédaquiline et le délamanide. Ces antibiotiques sont chers et jusqu'à présent, un nombre limité d'Indiens y ont eu accès. Cependant, New Delhi prévoit d'acheter pour la première fois du bédaquiline sur ses propres fonds, ce qui permettrait de mieux lutter contre la forme la plus agressive de tuberculose.
Sébastien Farcy est en Inde pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Sébastien, à très très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars et Amélie Perrier qui est de retour. Et Amélie, voilà un spectacle qui se voulait grandiose pour une commémoration à la hauteur.
Une flottille semblable à celle qui a débarqué en Nouvelle-Zélande il y a 250 ans, jour pour jour. Anniversaire aujourd'hui de l'arrivée des premiers Européens sur cette terre du bout du monde. Le capitaine James Cook pose le pied à Gisborne le 8 octobre 1769. Son équipage va prendre ensuite possession de l'île, pourtant déjà habitée par des peuples autochtones, les Maoris, là depuis des siècles. La première rencontre de Cook avec les Maoris se termine par 9 morts côté indigène, d'où la colère aujourd'hui des descendants maoris comme la militante Tina Ngata au micro de la BBC. Elle dit c'est offensant pour nous de célébrer quelqu'un qui est arrivé chez nous et a commis des meurtres, quelqu'un qui a initié quelque chose dont nous souffrons encore aujourd'hui. Le fait que l'histoire de Cook et la brutalité de l'histoire de Cook aient été supprimées si longtemps du récit officiel, c'est vraiment un symptôme de cette grande question sur l'existence en Nouvelle-Zélande d'une harmonie raciale. On a adhéré à ça. On a tendance à avoir un sens aigu du déni à propos du colonialisme. Le racisme colonial est vraiment le fondement du racisme d'aujourd'hui à Aotearoa, c'est le nom maori de la Nouvelle-Zélande. Ce racisme d'aujourd'hui sur lequel tous les autres formes de racisme se bâtissent. Alors ce week-end, la première ministre Jacinda Ardern avait pourtant tenté de calmer les esprits, reconnaissant que l'on ne racontait toujours que la moitié de l'histoire, mais il manque encore des excuses claires à cette communauté qui aujourd'hui se retrouve confrontée à des niveaux disproportionnés de pauvreté, de criminalité et de discrimination.
Les Vans, Amélie, les Vans, oui, les chaussures boycottées à Hong Kong.
Les Vans, vous connaissez hein, Fabienne, cette marque emblématique des skateurs. Les jeunes portent ces baskets depuis les années 70 et 80 et la firme ouvre chaque année un concours à ses fans. Alors ici, c'est l'appel à concours sur les réseaux sociaux. Le public peut soumettre ses propres modèles customisés de chaussures. Le gagnant reçoit 25 000 $ et son idée est commercialisée par la marque. Les votes ont été ouverts la semaine dernière et un modèle a reçu immédiatement des dizaines de milliers de voix. Une chaussure s'inspirant des manifestations pro-démocratie qui durent depuis des mois à Hong Kong contre les ingérences de Pékin. Une tennis avec tous les symboles du mouvement. Mais malgré son succès, la proposition a été retirée du concours ce week-end. Alors Vans se justifie, la marque n'a jamais adopté, dit-elle, de position politique. Pourtant, ces baskets sont souvent associées à la rébellion chez les adolescents, à la contre-culture pour les plus âgés. Les pro-démocratie voient dans cette éviction un autre terrain de lutte. Ils ont lancé le mot-clé hashtag boycott Vans. La marque de skate se retrouve ainsi mêlée à la contestation, tout comme d'ailleurs Versace ou Givenchy, beaucoup plus chic, mais pris dans la même révolution hongkongaise.
Et pour terminer, Amélie, une question. Que ne faut-il pas faire à la fête de la bière?
Oui,
en
je
Allemagne.
Vous pose la question, mais, Fabienne. Bah oui. Que ne faut-il pas faire quand vous êtes à Munich, à cette grande foire où l'on descend des masses, les masses et les chopes d'un litre de bière, en écoutant de la musique typiquement bavaroise et en portant des culottes de peau?
Non, vous n'avez pas fait ça. Merci.
Vous connaissez les paroles, je suis
sûre. Oui, bien sûr. Oui,
vous l'avez chanté. Oui. Alors la chose à ne surtout pas faire, Fabienne, c'est d'avoir l'idée de rentrer chez soi ou à l'hôtel le soir en trottinette électrique. L'Oktoberfest s'est achevé le week-end dernier, 2 semaines de célébration bien arrosées. Et la police allemande a fait les comptes. 414 personnes en état d'ébriété sur leur engin ont été arrêtées. 254 conducteurs de trottinettes électriques ont perdu leur permis de conduire.
Ben voilà.
Eh oui, puisqu'en Allemagne, les trottinettes électriques sont autorisées depuis le mois de juin et ont été classées dans la catégorie des véhicules à moteur. Donc, les conducteurs sont soumis au code de la route et ils peuvent perdre leur permis de conduire.
Eh ben, à bon entendeur. Voilà, Amélie Perrier, le bruit du monde en bandoulière. On se retrouve demain. Charles Bradley est sur France Inter. C'est parti. I tried, yeah. I tried to be a righteous man. I tried to give love all over the world, but I'm tired of being used.
got the best of me. I kick and scream just like a child. I stop falling over, my feeling catch a plane. I be a man, stay a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? A sin. Ah! Ah! Huh. Ain't it a sin?
Bradley, ain't it a sin, n'est-ce pas un péché? Ah ben voilà une autre de pécheresse, tiens, ah. Mesdames et messieurs et autres genres, Julia Foy, c'est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par le chiffre de la semaine.
40 millions, on compte aujourd'hui 40 millions d'esclaves dans le monde d'après le dernier rapport de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. En première ligne, des femmes, 70% de ces esclaves dits modernes. 25% sont des enfants ou des adolescents, travailleurs forcés en Corée du Nord, esclaves sexuels en Irak, victimes du crime organisé aux quatre coins de la planète. Il n'y a pas un endroit du monde où les femmes et les mineurs échappent à la contrainte la plus brutale et la plus violente qui soit. Voilà, je vous laisse méditer sur le concept de domination masculine, voire de violence de genre, et je vous embarque. Allez.
Et vous nous emmenez où alors, Julien ?
Au Baléares, Fabienne. Mmh. Les Baléares et ses 23 degrés insolents, son soleil radieux quand, de par la fenêtre de la régie, j'ai vu pleuvoir mon désespoir. Les Baléares et ses lagons bleutés, ses criques ciselés, son hôtel 100% réservé aux femmes. Voilà, ça c'est la petite vidéo de présentation de l'établissement Somdonia. On est palmier, on est piscine, on est mur blanc et on est aussi sur du rose. Hein. Par-ci par-là, bah oui évidemment c'est pour les filles l'hôtel. Alors on a aussi des tiroirs à bijoux dans toutes les chambres, même si on se défend absolument, Dixit, le directeur de l'hôtel, de verser dans les stéréotypes bien sûr. Il y a un marché, il y a une demande, ajoute-t-il, on ne fait que la satisfaire. Et c'est vrai que si c'est une première en Espagne, on a vu se développer ces dernières années une petite tendance au tourisme non mixte. C'est une île entière, Super She en Finlande, un festival de musique, le Woman Fest en Grande-Bretagne. On a aussi des compagnies de taxi réservées aux femmes en Inde, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, ou bien encore des compartiments non mixtes dans le métro japonais et thaïlandais. D'ailleurs, chez nous aussi, la question se pose régulièrement, puisque rappelons-le, en France, 100% des femmes ont déjà été insultées, agressées ou harcelées dans les transports en commun. La mesure, certes, pourrait avoir le mérite d'être efficace et assez radical le temps du trajet, mais une fois sorti du wagon, en fait, on fait comment ? Des trottoirs non mixtes, des immeubles non mixtes, des appartements non mixtes et des toilettes ? Ah si, pardon, les toilettes, je veux bien qu'elles soient non mixtes, mais pour le reste, suggestion, je dis bien suggestion, Fabienne, si on pariait plutôt sur notre intelligence et notre capacité à évoluer, si un effort d'éducation était réellement fait dès la maternelle, mais poursuivi ensuite au collège, au lycée, au bureau, partout, avec le budget qu'il faut pour apprendre aux garçons à respecter les filles et aux filles aussi parfois à se défendre et à montrer les crocs. À cette question, une école de Louisville au Québec vient de répondre non. On a tout essayé, explique la direction, mais les filles et les garçons apprennent mal quand ils sont ensemble et les écarts de notes se creusent, les filles en tête, les garçons
derrière. À titre expérimental, deux classes non mixtes ont donc été ouvertes à la rentrée. Dans la salle des filles, poursuit le directeur, on est un petit peu comme à l'église, hein, dans le silence et le recueillement. Elles apprennent leurs leçons et font consciencieusement leurs exercices. Alors que les garçons, eux, c'est un peu, je cite, hein, comme une équipe de hockey. Ils sont fougueux, ils ont de l'énergie à dépenser, il faut qu'ils puissent se défouler. Donc les maths, on les fait avec eux plutôt à l'extérieur, plutôt dans la cour de récré, et on construit un skatepark avec papier millimétré à la clé. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est marrant. Les garçons à l'air libre et les filles enfermées sagement à l'intérieur, ça me rappelle quelque chose, tiens.
Non mixité un jour, non mixité toujours.
C'est la conclusion de l'université de Cornell. Les hommes ont une mauvaise influence sur les comportements alimentaires des femmes. Et vice-versa, des cobayes des deux sexes ont été enfermés dans un restaurant italien, enfermés vivants, je précise, et invités à partager un repas. Résultat, eh bien, les hommes ont tendance à manger plus, mais beaucoup plus, hein, 93% de pizzas supplémentaires. Et tous invoquent le même motif, c'est pour impressionner madame. Je suis grand, je suis fort, t'as vu la puissance de mon appareil digestif. Les femmes, elles, ne changent absolument pas leur quantité de nourriture, mais en sortent avec l'impression d'avoir trop mangé. De là à penser que c'est le dîner en lui-même qui les a gavés. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais les chercheurs, eux, en concluent que peut-être il faudrait éviter de manger avec une personne de l'autre sexe. On fait quoi, Fabienne, avec les chercheurs? On les envoie au baléares?
Mais absolument, tous, hein, avec du, je sais pas moi, des poissons au féminin, des bœufs au féminin.
Et des pizzas.
Des pizzas et des spaghettis. Allez, bon, à la semaine prochaine quand même.
Oui.
Merci.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la nouvelle volte-face de Donald Trump sur la Syrie, on en parlait à l'instant, sème un peu plus la confusion dans son camp, le tout sur fond d'enquête de la Chambre des représentants en vue d'une éventuelle destitution. On sait combien le président américain résiste depuis 3 ans à toutes les controverses. Il semble inébranlable. Pourtant, cette fois, vous examinez pour la première fois l'hypothèse inverse, Jean-Marc, et si son parti le lâchait, c'est votre monde à l'envers.
Bon, je vais quand même pas vous le survendre, ça reste une hypothèse très improbable. Pourquoi ? Raison numéro 1, Trump demeure très populaire parmi les électeurs républicains qui le jugent honnête à plus de 80%, casserole ou pas casserole, on serait même tenté de dire plus il y a de casserole, plus son électoral soutient. À un an de la présidentielle, il conserve donc un socle très solide d'inconditionnel, 40% de l'électorat global. Deuxième raison, il n'a pas à ce jour de rival au sein du parti. Trump a mis les républicains en coupe réglée. Il y a bien 3 élus qui entendent le concurrencer dans la course à l'investiture, mais bon, ils n'ont aucune chance. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à Trump au sein du parti. Troisième raison, le président américain est hyper organisé. Il a déjà levé des centaines de millions de dollars pour sa campagne. Il arrose les électeurs de publicité sur les réseaux sociaux et il continue de déverser des flots de fausses informations. 12 par jour en moyenne. 12 000, j'ai bien dit 12 000 depuis le début de son mandat selon le décompte du Washington Post. Donc on voit mal les républicains le lâcher. On imagine mal, par exemple, une vingtaine de sénateurs du parti se joindre aux démocrates pour former une majorité de 2/3 au Sénat, ce qui rendrait envisageable la destitution du président. À ce stade, ça relève encore du vœu pieux des adversaires de Trump.
Donc je vous ai entendu dire, à ce stade, ça veut dire que ça peut bouger, c'est ce que vous voulez dire.
C'est en train de devenir possible, improbable mais possible. D'abord, avec ses volte-face à répétition en politique étrangère, Donald Trump s'est mis à dos beaucoup de gens. Hier encore, avec cette cacophonie sur le retrait américain du nord de la Syrie, oui le matin, non le soir, hein, que s'est-il passé entre-temps? C'est simple, le Pentagone, l'état-major du parti républicain, l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, tous ont dit publiquement que lâcher les Kurdes c'était une mauvaise idée, donc Trump a fait marche arrière. C'est pas la première fois que ça se produit. Par exemple, récemment, on en avait parlé sur les négociations avec les talibans afghans. Oui du président, puis non, après un processus assez similaire. Donc à force de décider seul, de multiplier ordre et contre-ordre, Trump s'est fâché avec beaucoup de monde au fil des mois. Faut le rappeler, il a viré des dizaines de conseillers, en particulier sur la sécurité et la diplomatie. Tillerson, Comey, Mattis, Kelly, Bolton, McMaster, la liste est longue. Autant de rancœurs potentielles. Et alors avec les services secrets américains, alors là c'est carrément le conflit ouvert. Par exemple, il a désavoué la CIA après ses conclusions sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Dans le monde du renseignement, beaucoup pensent désormais que Trump met la sécurité nationale américaine en danger. Donc tout ça rend possible une sorte de grand règlement de compte.
Mais le sujet principal, c'est bien l'enquête pour destitution, quand même, Jean-Marc. Donc, est-ce que là-dessus, le parti républicain peut lâcher Trump?
Alors, jusqu'à présent, les voix dissidentes sont peu nombreuses. 3, Susan Collins, Ben Sasse et l'ex-candidat à la présidentielle Mitt Romney. Pour le reste, le parti garde un silence prudent, sauf qu'en coulisses, les deux ténors du parti que sont Chuck Grassley et Mitch McConnell paraissent quand même décidés à garantir le déroulement de la procédure d'impeachment dans les règles. En anglais, ça s'appelle l'évaluation asset or liability. Ça veut dire, est-ce que vous êtes un atout ou un fardeau pour votre parti? Et si, à un moment donné, les éditorialistes de la presse conservatrice, les ténors républicains commencent à se dire que Trump devient plus un fardeau qu'un atout, la panique peut s'installer, le vent tourner. Et puis, il ne faut pas oublier deux facteurs. Un, les États-Unis sont un pays fédéral, donc l'enjeu de chaque État est au moins aussi important que l'enjeu national. Un gouverneur républicain d'un État X n'hésitera pas à lécher Trump s'il finit par penser sauver ainsi sa peau localement. Deux, les États-Unis restent un État de droit, c'est-à-dire que les institutions fonctionnent, le président n'est pas au-dessus des lois. Pour toutes ces raisons, l'hypothèse improbable, je le redis, d'une rébellion du Parti républicain n'est plus totalement farfelue. Et ça, c'est en soi un événement. C'est pour ça que Donald Trump semble tellement nerveux.
Et on y reviendra d'ailleurs, Jean-Marc, on y reviendra demain et en longueur sur ce Donald Trump et sa destitution demain dans Un jour dans le monde. Voilà, c'est dit. Merci en tout cas. Le Monde à l'envers, c'est tous les soirs. Le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Ne changez rien, faites ce que vous avez à faire, on s'occupe du reste.